c'est fiscalité.
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
On va demander, t'es-tu déjà fait traiter de tête de Slinky, Alex Leblon?
Non, c'est pas arrivé encore.
Pas arrivé encore.
Éventuellement.
Un objectif noble pour 2026.
Ouais, quand même.
Ça va, Alex?
Ça va, vous autres?
Alex Leblon, qui est planificateur financier. Ouais, ça va, quelques jours avant Noël. Est-ce que tu viens participer à notre gravel du temps des fêtes?
Je vais être là.
Oh, yes!
C'est un plaisir.
Qu'est-ce qu'on fait?
On parle de dette. Il y a beaucoup.
Yeah!
Rien dit période des fêtes comme l'endettement.
Oui, exact.
Super festif. Mais non, il y a beaucoup de gens, tu sais, période des fêtes, nouvel an, résolution. Il y a beaucoup de monde qui ont comme résolution. En fait, la résolution numéro 1 2026, c'est remboursement de dette, faire du ménage là-dedans. Fait qu'on donne quelques petits trucs.
On va donner de l'espoir.
Espoir ou désespoir, dépendamment.
C'est le temps des fêtes. Espoir.
Espoir.
Merci.
Dans sa poche de cadeau de Noël, Alex Leblon a du désespoir pour tout le monde.
Ça va, Scrooge?
Alex, aujourd'hui, on parle de Warren Buffett, puis tu vas nous faire un peu l'historique du secret du succès, puis pourquoi il est unique par rapport aux autres qui ont fait bien de la fortune.
Écoute, c'est une grosse nouvelle. Ça fait quelques mois qu'on le sait, mais ça reste que la date qui avait été annoncée, qui semblait lointaine, est là, là. Warren Buffett, que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu le nom.
Oui.
Certaines personnes ne savent pas ce qu'il fait exactement. Ça va être le but de la chronique d'aujourd'hui, de faire le tour de ça. Mais Warren Buffett, 95 ans, a annoncé qu'il quittait officiellement son poste de président de Berkshire Hathaway, qui est sa compagnie là, d'investissement. Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps. Il reste quelques jours. Là. Officiellement, il ne prendra jamais sa retraite. Là. Il va encore travailler, mais son ordi sera plus plugué sur le système. Là. Ils vont dire « Warren, fait ça, là, mais c'est plus lui qui va être en charge. »
Mais lui, quand il va mourir, on va suivre les tendances de qui?
Ben écoute, ça fait déjà quelques années qu'il y en a là, des gestionnaires émérites là, qui commencent à devenir les nouveaux Buffett.
Okay.
On en a un, entre autres, au Québec, qui est très connu, François Rochon.
Ah ouais?
Qui est vraiment... qui a des performances assez incroyables, qui est vu comme étant... Pas le prochain Warren Buffett, mais tu sais, qui est vu comme étant
une
dans
relève.
Sa lignée. Okay. Le gars qui prend la relève de Warren Buffett chez Berkshire Hathaway, c'est un Canadien. Fait qu'il y a du monde. Là. C'est juste que Buffett, à 95 ans, tu sais, ça fait depuis les années 60. Si tu t'en vas te promener sur YouTube, là, ça fait depuis les années 60 que Buffett est vu comme étant une sommité.
C'est-tu à cause de la longévité que c'est le plus grand de tous les investisseurs?
Ben, c'est la longévité et la performance. Mm. On parlait de sa performance tantôt. N'importe quel quidam sur le bord de la rue est probablement capable de battre le marché sur une période de un an ou deux ans. Tu sais, ça se peut. Par contre, battre le marché sur une période, sur sept décennies, il y a une seule personne dans l'histoire qui l'a fait,
wow.
C'est Warren Buffett. Fait que tu sais, quand tu regardes, là, moi je trouve ça super intéressant. En date d'hier, là, ça change toujours un peu à chaque jour, là, mais quand tu regardes la liste des 9 personnes les plus riches sur la planète, là, fait que Elon Musk, Larry Page, Larry Ellison, Jeff Bezos, Sergey Brin, l'autre gars de Google, Zuckerberg, Bernard Arnault, le gars de Louis Vuitton, puis tout ça, Jensen Huang de Nvidia, puis Warren Buffett. Dans ces 9-là, là, savez-vous c'est quoi qui différencie? Savez-vous qu'est-ce qui différencie Buffett et toutes ces personnes-là?
Ce qui fait que Buffett est unique par rapport à toutes les autres,
exactement.
C'est quoi?
La seule personne dans ce classement-là qui n'est pas un inventeur. Là.
C'est vrai, il n'est pas lié à aucune grande marque ou quoi que ce soit. Lui, il a vraiment juste fait du capital.
L'investissement.
Là,
ouais, Elon Musk, c'est, il a acheté Tesla,
là.
Mais il a fondé...
Mais il est le visage de plus de entre autres, Tesla.
Il a créé la kétamine aussi. Non,
il l'a consommé.
C'est une porte-parole. Tu sais, il y a Larry Page, puis Sergey Brin, c'est Google. Jeff Bezos, c'est Amazon. C'est des gars qui ont fondé des compagnies. Warren Buffett, oui, il a fondé une compagnie d'investissement, là, mais c'est pas du produit. Là. Il n'a pas développé un réseau social, il n'a pas développé des chars.
Lui, il a fait des portefeuilles.
Il a investi dans les affaires. Fait que c'est le seul investisseur là, qui a développé ce niveau-là de richesse.
Alex, avant de poursuivre notre portrait de Warren Buffett, je sais que Audrey a une bonne blague à te communiquer.
Yes, vas-y.
Oh non! C'était pas fait pour aller public, là. C'est pas tant drôle.
Ben là, tu nous l'envoies par Messenger. Je la trouve excellente. Donc, Audrey a une bonne blague à te communiquer sur ta chronique d'aujourd'hui.
Sais-tu c'est quoi qui est plus hot que Warren Buffett?
Non.
Boba Fett.
Refait?
Est-ce que t'as vu Star Wars, Alex?
Non.
En tout cas, c'est vraiment lourd, là.
Ça vient d'arriver.
Veux-tu savoir de quoi de drôle?
Oui, vas-y donc.
Sais-tu pourquoi je suis arrivé 2 minutes en retard?
Pourquoi?
Parce que... Star Wars?
Non, je faisais une entrevue avec la presse. Ça a duré 40 minutes. Une journaliste sérieuse.
Oui.
Là, j'arrive ici. On parle de...
Quoi? Elle t'a parlé 40 minutes puis elle t'a pas fait sa joke de Boba Fett?
42 minutes.
Wow!
Seigneur!
Ouais.
Oh, t'es-tu attaché à cette personne-là?
Non.
T'es-tu attaché à Audrey?
Oui.
Bon. Voilà.
Voilà votre honneur.
Elle est bonne.
Bon, ben, oui, je te vois, t'es écrasé de rire. T'es jamais vu rire de même de toute ta vie. Pourquoi Buffett est devenu l'avant-plan un peu de l'investissement?
Ben, sa stratégie est vraiment différente de ce qui se faisait à l'époque. De plus en plus de gens font le Buffett maintenant parce que ça a été popularisé puis ça a marché pour lui. Mais avant, c'était vraiment le festival de « OK, j'achète une compagnie, j'avance. » T'sais, OK, j'achète, General Motors, ça augmente de 2%, je revends tout de suite. Okay. J'achète une autre affaire. T'sais, il y avait beaucoup de transactions très, très, très rapides. On achetait des actions. Buffett est arrivé puis il s'est dit « Ouais, moi, là, j'achète des entreprises. J'achète pas des actions. » Puis je me fous un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois, qu'est-ce qui se passe dans la prochaine année. Mais lui, là, sa période de détention favorite, c'est pour tous les temps.
Okay.
Tu vois, Coca-Cola qui a acheté il y a plusieurs décennies, Geico, l'assureur qu'on connaît moins ici, mais qui est un des plus gros assureurs,
ouais,
conserve des compagnies pendant des décennies. Puis lui, sa logique, c'est de dire, il n'y a personne qui s'achète une terre, mettons, où il y a des terres, c'est dans Portneuf. Il n'y a personne qui s'achète une terre à Portneuf en fonction de « il va-tu pleuvoir l'été prochain?
Mm-hmm. »
S'il pleut l'été prochain, il pleuvra l'été prochain. Mm-hmm. Moi, ma terre, je l'achète pour 50 ans. Fait que dans 50 ans, je vais avoir plus de beaux étés que de pas beaux étés. Fait que ce qui se passe l'année prochaine, c'est plate, mais je m'en fous un peu. Buffett, il a pris cette logique-là puis il l'a appliqué à des entreprises. Il se dit, hey, mettons que j'achète General Motors puis il fait moins 40 l'année prochaine. Dans le fond, c'est une bonne affaire pour moi parce que je vais pouvoir en acheter plus. Puis moi, je crois en cette compagnie-là en long terme. Fait que le fait qu'il y ait des fluctuations court-moyen terme, je m'en fous un petit peu.
D'ailleurs, c'est un gars qui, pendant longtemps, s'est méfié de toutes les entreprises qui étaient dans la nouvelle technologie en voyant pas nécessairement toujours le long terme qui venait avec.
Ouais, mais c'est surtout que lui, on va parler tantôt de ses fondamentaux d'investissement, là. Mais il veut toujours acheter une entreprise qui est sous-évaluée. C'est-à-dire que lui, il regarde, OK, ça devrait être quoi la valeur de cette entreprise-là?
Son potentiel
est
où?
Si le marché la sous-évalue, mettons, de 15 %, lui, il va dire, OK, parfait, c'est une belle opportunité. Les entreprises de tech, historiquement, tu sais, la tech, c'est toujours sexy. Mm-hmm. C'est toujours la nouvelle affaire. Par définition, c'est toujours surévalué.
Mm-hmm.
Fait qu'il y en a qui disent qu'une des plus grosses erreurs de Buffett dans sa carrière, ça a été des erreurs par omission. C'est-à-dire de ne pas être entré dans Google à temps, de ne pas être entré dans Apple à temps.
D'être resté trop prudent.
Ouais. Puis lui, sa réponse à ça, c'est de dire, moi, j'ai un meilleur job au monde. Parce que moi, je suis un frappeur, puis je fais juste frapper les balles que ça me tente. Il n'y a personne qui compte mon nombre de balles, mon nombre de prises. S'il y en a une qui, je me fais pitcher une balle, puis elle était bien belle, puis je ne l'ai pas frappée.
L'autre d'après, je vais faire un circuit dessus si elle me plaît.
À trois prises, je ne suis pas retiré, fait je peux swinguer ce que je veux tant que je l'envoie de l'autre bord de la clôture.
C'est pas populaire comme stratégie pour faire de l'argent, parce qu'il faut que tu sois patient sur un méchant temps.
Il y a 95.
Ben, tu vois, souvent, là, Buffett s'est fait poser la question. Là, je devance un peu, mais, parce que, tu sais, il était rendu, tu sais, lui, il est devenu milliardaire. Tu sais, je l'avais sorti ici, là, il est devenu milliardaire à 56 ans. Quand tu regardes, là, Zuckerberg, c'est 23 ans.
T'imagines?
Les gars de Google, c'est 30 ans.
C'est beaucoup plus tôt. Lui, il a été patient.
Il a été patient, puis il s'est fait poser la question, si ta stratégie est si bonne que ça, là, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui te copient? Puis lui, sa réponse, c'est « Mon affaire à moi, là, c'est un « get rich slow ».
C'est pas ça que les gens recherchent.
Les gens veulent un « get rich quick ».
Quasiment instantané.
Tout le monde embarque dans la crypto-monnaie, tout le monde embarque dans des affaires d'eux-mêmes qui ont été super. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais Buffett, lui, il a jamais prétendu. Quand il fait un investissement, là, il souhaite que l'investissement baisse le lendemain. Pourquoi? Comme on disait tantôt, il peut en racheter plus. Fait que lui, là, tu sais, il s'est toujours tenu loin des compagnies qui étaient très sexy, mais que lui regardait ça, puis il était comme le fondamental est où, je suis pas capable de le voir, je passe à côté.
Comment il décidait, mettons, d'investir dans Coke à une période où c'était pas évalué, puis que c'était pas devenu la marque que c'est devenu aujourd'hui, ou n'importe quelle autre entreprise, comment il est choisi?
Bien, la première affaire, Buffett, lui, il fait de la lecture comme personne en fait. Là. Dans son bureau, on s'entend, il est un peu old school. Là. Je dis pas à quelqu'un, « Hey, mets-toi pas d'ordi dans ton bureau. » On s'entend, le bonhomme a 95 ans. Il a des méthodes un peu weird, là. Mais lui, il a même pas d'ordi dans son bureau.
Okay.
Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il lit des états financiers, fait des rapports, puis il va établir, OK, ben, mes critères à moi, là, lui, c'est je veux investir dans une compagnie qui est tellement simple que même un idiot pourrait la gérer. Puis sa logique, c'est de dire, ben, moi, si mon holding period, là, si moi, ma période de détention optimale, c'est pour la vie, c'est sûr certain qu'il y a un dommé à un moment donné qui va être à la tête de la compagnie. Là.
Il ne sera pas capable de la couler.
Ben, c'est ça. Fait qu'on veut une compagnie simple. Puis okay. Justement, on parlait de la tech.
Ouais.
Tu sais, au début, là, Google, là, le revenu venait d'où? C'était quoi la structure de profit? Personne qui le comprenait, dans le fond. Là. Même les gars, eux-autres-mêmes, étaient comme, OK, comment on fait pour faire de l'argent avec cette affaire-là? Là? Ça a été long avant qu'ils le comprennent eux-autres-mêmes. Fait que Buffett, il n'investira jamais dans une compagnie comme ça.
Okay.
Coca-Cola, c'est un bon exemple, ça, de... Je veux dire, Coca-Cola, ça s'explique à une phrase. Là. Je veux dire, c'est de l'eau sucrée, là. C'est assez simple. Là. Oui, tu as un réseau de distribution, puis tout ça, mais simple à comprendre. Ensuite de ça, lui, il aime ça, des entreprises qui ont des faibles coûts d'opération. Fait que pensons à Amazon qui a explosé en bourse. Amazon a des coûts d'opération de
très
malade.
Élevé,
la livraison, acheter le stock, entreposer le stock.
Lui, il ne trosse pas ça.
La main-d'œuvre.
Mais c'est pas qu'il ne trosse pas, c'est qu'il se dit hey, dans toutes les balles qui me sont lancées, ben moi, j'ai American Express, dont le modèle d'affaires, c'est de faire de l'argent. Le monde te donne de l'argent à 20 % d'intérêt. Puis son, c'est un modèle d'affaires qui ne coûte rien. Fait que lui, il regarde ça et il dit...
Il n'y a pas une structure qui va te coûter une fortune pour pouvoir faire de l'argent.
T'sais, American Express n'a pas d'inventaire, fait pas de livraison. Visa, Mastercard ne font pas ce genre d'affaires-là. Fait que lui, il regarde, OK, j'ai le choix entre les deux. Je vais prendre American Express. Je vais avoir des marges beaucoup plus grandes. Puis c'est quoi qui fait en sorte que les compagnies augmentent la bourse? C'est leur profit. Fait que tu sais... Une compagnie de carte de crédit a pas plus de chances de faire du profit que Amazon demain matin. Ouais. Amazon a fait une perte en 2022, ce qui est quand même récent. Là. Puis une autre chose qu'il aime beaucoup, c'est une entreprise qui a très peu de dettes. Fait que naturellement, la dette, quand ça va bien, la dette, elle te dérange pas. Par contre, l'année où ça va moins bien, bien là, ta dette te plombe. Puis si tu tombes dans cette spirale-là, c'est extrêmement dur de s'en sortir. On l'a vu avec l'abbé récemment. On l'a vu dans un paquet de compagnies où, OK, la dette était gérable jusqu'au moment où elle ne soit plus. Fait que Buffett, lui, sa raison d'être, ça a toujours été, OK, si tu as un beau balance sheet, là, mais que c'est juste parce que tu t'es endetté en malade, ben, je sais qu'il est artificiel par nature.
Okay.
Le coup de pelle s'en vient.
C'est trop risqué.
J'investirai pas avec toi.
On est en compagnie d'Alex Leblanc, planificateur financier. Ici, Pierre Brudeau. C'est une blague qui est suggérée par d'auditeurs de Boulevard 102.1. Alors, je te pose la question, Alex. Je suis en train d'écouter ta chronique sur Warren Buffett. Est-ce que tu veux connaître le nom de ma chanteuse préférée?
Oui, ça m'intéresse.
C'est Ariane Buffett.
Oh, j'ai scoré!
Mais c'est hilarious,
celle-là! Mais là, je l'aurais ri, je l'avais compris, j'ai pas de référence.
Elle était quand même bonne en plus.
Ariane Buffett. Voilà.
Ouais, quand même.
Merci à l'auditeur. Arrêtez d'envoyer des jokes. C'est une chronique sérieuse. Puis Alex est déjà un petit peu froissé. Là. Il parle à des gens de la presse.
Ils
vous
font
savez.
Pas ça, eux, à la presse.
Non, c'est ça.
Ouais, c'est bien cute, là, votre station locale. Là.
Tu sauras qu'on est en forte progression. C'est écrit dans nos graphiques.
C'est vrai.
Alex, les meilleurs coups de Warren Buffett, ben là, t'as parlé de Coke. J'imagine que ça en fait partie. Là.
Ouais, assurément. Puis tu sais, Coke, il a pas acheté Coke quand c'était une petite shop sur le bord de la rue. Là. Il a acheté Coke dans les années 80, fait 87, 88 à peu près. Puis tu vois, c'est une compagnie. Buffett, là, sa grande force a été la patience. Ça faisait des décennies qui voulait acheter Coke.
Mais il n'y avait pas l'opportunité.
C'est pas qu'il y avait... Ben, il y avait l'opportunité, mais toujours trop cher selon lui. Puis lui, il s'est dit, est trop cher.
Ça finira bien par se présenter.
À un moment donné, elle va être à mon prix. En 87, il y a eu quoi? Le lundi noir, un des plus gros crashs boursiers de l'histoire de la planète.
Il a acheté du Coke.
Pendant que tout le monde capotait, puis hey, je perds de l'argent, Buffett, c'était la plus grosse journée de sa carrière. Il s'est dit,
Woohoo!
La compagnie que je cible depuis des décennies est en rabais.
V'là ma chance.
Fait que lui, là, comment il se comporte, là? C'est, tu sais, là, mettons qu'on se promène aux galeries de la capitale, Black Friday ou Boxing Day, il y a des rabais partout. Hey, moi, j'aime ça, Lululemon, moins 30 %, je m'en vais là. Buffett, là, lui, c'est sa stratégie d'investissement. Quand il y a des compagnies, des périodes comme ce qu'on a vécu avec les tarifs, là, au début de l'année, 2022, où tout fait moins 20, moins 25, Buffett, lui, c'est là où il se met en mode action.
Il prend sa liste de souhaits, là, puis regarde pour lesquels, wouhou, j'ai une opportunité.
Lui, il travaille là, pendant des années pour cette journée-là. Il y a des années, des mois complets où Buffett ne fait aucune transaction. Là. 0-0-0, il attend le moment où son prix va être là.
Mais expliquer de même, Alex, ça a tellement de l'air simple. Je peux pas croire que tout le monde fait pas ça tout le temps.
Bien, l'affaire, c'est que l'investisseur moyen, même le gestionnaire de portefeuille, même des gens qui sont supposés connaître ça, là, sont foncièrement émotif. Je vais donner un exemple. Il y a un des meilleurs fonds d'investissement de l'histoire de la planète. Là. C'est un fonds géré par Fidelity dans les années 70-80. Le fonds Magellan, M-A-G-E-L-L-A-N.
Magellan.
Un gars qui s'appelle Peter Lynch. Puis le fonds, là, en moyenne, à chaque année, pendant sa durée de vie, là, a fait à peu près 30 % en moyenne à chaque année. Le gestionnaire, là, il était vraiment basé. Là. Des fois, il y avait des grosses années. Des fois, il y avait des très, très, très mauvaises années. Il ne changeait jamais sa stratégie. Fait que le fonds faisait 30 % en moyenne.
Okay.
Sais-tu, le client moyen investi dans ce fonds-là faisait quel rendement?
Combien?
À peu près zéro. Fait que le client investit dans un actif qui fait 30 % en moyenne.
Puis il ne fait pas d'argent.
Il ne fait pas d'argent. Pourquoi? Parce que quand il entend parler, hey, ce fonds-là a fait 70 % l'année passée, il l'achète là.
Trop tard.
Trop tard.
Puis là, hey, crime, il fait moins 50 cette année, il le vend là. Fait que lui, il est toujours à mauvaise place au mauvais moment, alors que Peter Lynch, le gestionnaire, qui était un peu à la version de l'école de Buffett, bien lui, quand ça baissait de 15 % 20 % 25 %, c'est là où il se disait parfait, la job commence. C'est là qu'on travaille. C'est notre rendement. T'sais, notre rendement futur, là, on le fait dans des années comme ça. On achète, t'sais, pour le même 1 000 $, tu achètes bien plus de stock dans un bon marché que dans un haut de marché.
Je me souviens de monde qui ont acheté des actions dans des compagnies de croisière quand la pandémie a commencé parce que ça a crashé en fou. Fait que les actions étaient vraiment pas chères. Tout le monde se disait, de toute façon, ça va remonter un jour. Ça a remonté. Tout le monde a recommencé à voyager. Là.
Booking, Expedia, ouais, ouais. Tout ça avait crashé. Il y a des gens qui ont fait des millions là, juste en se disant, c'est probablement...
Buffett, c'est temporaire.
Là, Buffett, ce qu'il a toujours dit, là, c'est... Lui, il dit « betting on America ».
Mm-hmm.
Fait que lui, la crise de 87, crise de 2008, il n'a jamais quitté le marché américain parce qu'il s'est dit, on est la plus grosse puissance à la planète. Peut-être qu'on ne sera pas dans 6 mois. Dans 6 mois, on va leur devenir. Fait que j'ai investi.
Parle-nous de son autre bullseye, justement. Tu parlais de l'America. Bank of America.
Oui. Crise financière de 2008. Les banques se tradaient. Fait que les actions des banques étaient dans leur plus bas. Tout le monde pensait que le système financier américain allait s'effondrer. Dans les médias, on ne parlait que de ça. Buffett a vu ça puis il s'est dit, ouais, pas mal sûr que le système ne va pas s'effondrer. Là. Je pense que c'est pas si pire que ça. La job, il ne l'a pas faite à ce moment-là. Lui, ça faisait des années qu'il regardait les valeurs de chacune des banques, ciblait celles qu'il voulait acheter. Puis en 2008, il y a eu une grosse baisse de Bank of America. Ça remontait un petit peu. Puis en 2011, quand il y a eu l'histoire de toutes les GM, puis Ford, les entreprises mm-hmm. américaines au niveau automobile, là, ça a eu beaucoup de problèmes dans ces années-là. Bank of America a refait moins 58 % puis Buffett, c'est à moins 58 % qui est devenu un des principaux actionnaires de Bank of America,
crime.
Qui, en date d'aujourd'hui, est encore un de ses meilleurs investissements. Pourquoi? Parce que pendant que tout le monde était en mode panique, bien, lui était en mode achat, il était en mode opportunité. Ça a toujours été ça, son modus operandi. Fait qu'il l'a fait avec Coke, il l'a fait avec Bank of America. Fait que les plus gros coups de circuit, bien, d'un simple point de vue mathématique, c'est les fois où il a acheté son stock le moins cher.
Tu voulais nous faire un petit exercice ou un petit quiz pour nous montrer à quel point Buffett avait vraiment le dessus sur n'importe qui faisait son genre d'investissement.
Oui. Le plus loin qu'on peut reculer, là, c'est pas une comparaison parfaite, OK, là, mais c'est en 1965.
Okay.
La carrière d'investisseur de Buffett tel qu'on le connaît actuellement a commencé en 1965.
Okay.
Fait qu'on est capable de comparer ce que vaudrait un investissement juste dans le marché américain. Fait que mettons dans le S&P 500, les 500 plus grosses compagnies américaines. Quelqu'un qui aurait mis 1000 piastres là-dedans en 1965, aujourd'hui, là, ce 1000 piastres-là vaut 390 000. Fait que grosso modo... Ouais, c'est pas pire.
Poppy.
À date d'aujourd'hui, c'est peut-être 400, là, mais tu sais, 1000 piastres en 1965 vaut 400 000 piastres aujourd'hui.
Okay.
On s'entend, il faut que tu sois resté investi sur le marché.
Oui.
On présume que la personne est restée investie.
Okay.
La personne qui, plutôt que d'investir dans le S&P 500, qui a fait 10 % en moyenne à chaque année, aurait vu ça, là, un article là, dans un journal un peu weird à Omaha, là, qu'il y avait un gars qui s'appelle Warren Buffett qui se fait des investissements. Mettons que la personne aurait dit, hey, à la place de le mettre sur le marché américain, moi le mettre avec ce dude-là. Ben, ce 1000 $-là, savez-vous, il vaut combien aujourd'hui?
Combien? Ça pète-tu le million? Il rit de moi.
C'est 55 millions.
T'as peur!
Parce que le rendement annuel moyen du marché a été 10. Le rendement annuel moyen de Buffett a été 19.
Hey, c'est l'enfer! Mais c'est parce que la différence est hallucinante, là.
Ben, c'est l'intérêt composé pendant 60 ans. Fait qu'on s'entend, il n'y a personne qui a vraiment un horizon de placement de 60 ans. Fait que c'est une comparaison qui est imparfaite par définition. Mais la leçon, c'est que quand même bien que tes placements baissent l'an prochain, quand même bien que ta position dans ton portefeuille présentement sous-performe une année ou deux. On s'en fout un petit peu. Buffett, là, ça fait 10 ans qu'il est en sous-performance par rapport au marché. Lui, il est mort de rire. Là. Tout le monde, tu as les articles. Est-ce que c'est la fin de l'avantage Buffett? Puis est-ce que Buffett est passé date? Puis lui, tout ce qu'il fait, c'est que récemment, là, il y a eu des petites baisses au niveau technologique. Il a acheté du Google, justement, parce que là, il jugeait que hey, ils sont moins chers que ce qu'ils devraient être.
Puis là, ils sont fiables.
Ben, ça a explosé Google depuis ce temps-là.
Fait incroyable.
Lui, il tire un petit peu de la patte versus le marché des dernières années. Mais lui, son argument, c'est toujours le même. 5 ans, moi, je m'en sac comme dans 40. Moi, j'investis sur 20, 30, 40, 50 ans.
Il est unique aussi à plusieurs autres niveaux. Là, il est rendu à 95 ans. Il prend sa retraite, Alex. Ça va être qui l'héritier de sa fortune?
Ben ça, c'est la question que tout le monde se pose.
Y a-t-il des enfants?
Il y a des enfants. Ses enfants, ce sont adultes.
Autonome. Puis,
autonome, mais ils ont peut-être, je ne sais pas les âges. Là, mais...
Ben, il y a Boba Fett et Ariane Buffett, évidemment.
Fait que, ses enfants sont vieux aussi. Lui, là, 99 % de sa fortune va être mise à des œuvres caritatives. Fait que lui, il a déjà donné beaucoup, beaucoup d'argent.
Puisque Bill Gates a fait aussi. Là.
Ben, en fait, Bill Gates, lui, il a fondé il y a quelques années le Giving Pledge, mm-hmm. justement, puis il allait voir des milliardaires en disant « Hey, buddy, de un,
on
toi, t'as pas besoin
de
cet argent-là, tes enfants n'ont pas besoin. » Fait que le Giving Pledge, c'était Gates voulait encourager les milliardaires à donner 50 % de leur fortune au décès. Buffett, il a dit « Garde, moi, je vais donner 99 %.
Hey! »
Lui, sa logique, c'est, il dit « Garde, je veux le donner à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. » Il dit « Je veux leur donner assez pour que rien soit impossible pour eux autres, mais je ne veux pas leur donner trop pour que le résultat, ce soit qu'ils s'assoient là-dessus, ils
rien.
Font rien, puis qu'ils font juste surfer là-dessus.
99 % de tout l'argent qu'il a ramassé va se retrouver dans les mains d'œuvres caritatives.
Ouais.
Hey, moi, je pensais que le 50 % là, cette affaire-là, je pensais que personne n'allait embarquer là-dedans parce que c'est reconnu, là. La plupart des gens qui se mettent riches, souvent, c'est parce qu'ils sont cheap en tabarnouche avec leur argent, là, tu sais. Ouais. Je trouve ça impressionnant.
Mais lui, on dirait que son défi, ça a été de faire ça, de faire de la bourse, de faire des sous là-dessus. Mais c'est pas le gars le plus extravagant que tu vas voir, là. Tu sais, il envoie pas sa blonde dans l'espace comme Jeff Bezos. Puis en passant, ses trois enfants, ils ont entre 69 et 74 ans, puis eux autres aussi ont des enfants.
Des renaisses, comme on dit, des renaisses.
Mais tu sais, Buffett habite dans la même maison depuis les années 50. Jamais déménagé. Il s'est acheté un char il y a quelques années parce que sa fille l'a littéralement obligé. Là. Son char était rendu dangereux. Fait que, il aurait pu s'acheter n'importe quoi, mais lui, il aime ça, les chars américains. Fait qu'ils ont acheté un Cadillac, puis il a encore le même maudit Cadillac. Fait que c'est un gars qui n'a jamais vraiment dépensé son argent.
Il n'est pas devenu riche pour vouloir être riche. Là.
Non, vraiment pas. Lui, ce qu'il aime, c'est lire des états financiers, puis that's it. Puis lui, il a toujours dit, mon argent est mieux... Tu sais, il dit, moi, je m'en vais au resto. Je fais un voyage une fois de temps en temps, je travaille, je n'ai pas besoin de temps que ça. Fait qu'il dit, mon argent est bien mieux investi entre les mains d'autres qu'entre mes mains à moi. J'ai pas grand-chose à faire avec ça. Je saurais même pas quoi faire avec ça. Fait que justement, lui, ses enfants ont des fondations. Fait que il y a une partie qui va à ses enfants, il y a une partie qui va à un paquet de fondations. Mais tu sais, le Giving Pledge de Bill Gates, là, pour vrai, la majorité des gros noms dont on a parlé tantôt, la majorité ont embarqué.
Ah oui?
Un qui se fait critiquer beaucoup, c'est Elon Musk, qui est très... quand tu regardes son ratio fortune-philanthropie, là,
c'est pas yard.
Il est relativement bas.
Okay.
Lui dit que ben, ma philanthropie, c'est j'envoie les gens sur Mars. Argument.
Mais c'est un gars qui a très peu de liquidité aussi, par contre. Là.
Ah. Comparé Elon à d'autres. Musk, là, mettons que tu le croises puis il dit, tu lui dis hey, on va-tu au team? Il n'est pas capable de payer. Là. Le gars, il a zéro cash.
Il n'y a plus de maison. Il a tout vendu ses propriétés. Il vit en location. Et c'est comme, c'est fucky.
Ouais. Le gars a accès à aucune liquidité.
Ouais.
Vraiment que vous avez accès à plus d'argent présentement qu'Elon Musk. Parce que lui, sa philosophie, c'est « Si j'ai de l'argent, je ne travaillerai pas, je vais être lâche, faut que je vive comme un moine. » Fait qu'il s'arrange pour vivre. Il couche chez des amis, fait qu'on s'entend, ses
mais
amis
ont des... Mais il paye sa kétamine.
Ouais, c'est ça. Il y a un bon...
Oui, mais il n'en prend pas beaucoup, c'est des micro-doses.
Des micro-doses,
Oui, c'est des micro-doses.
Quelques grammes ou millilitres, là.
Ouais. Hey, merci Alex Leblon.
Merci à vous autres.
Alex Leblon, qui est planificateur financier sur le fait que Buffett est maintenant officiellement à la retraite. Gros move pour le Canadien de Montréal. Le trip à trois gardiens de but n'aura pas duré très longtemps.
J'ai des questions.
Peut-être que ça va surprendre de savoir que c'est Samuel Montembeau qui est cédé aux Rockets de Laval à des fins de conditionnement.
Ma question, c'est quoi des fins de conditionnement?
Ben, ça veut dire qu'on considère qu'il faut qu'il s'entraîne. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'est pas dans une forme optimale.
Ben, son surnom, c'est Snacks.
C'est tout ça pour vrai?
Oui, parce qu'il est toujours en train de clignoter quelque chose.
Fait que là, ils vont-tu refaire l'annonce avec Mike Chirona pour dire « Toi, tu goals plus! » Non, ils ne feront pas. Hein,
il faut pas.
Hey, c'est quand même surprenant.
C'était pas une annonce de McDo, ça, d'ailleurs?
Laquelle? Oui. Ben, t'avais McDo, t'avais Mike Sherona, Poutine Ranch, il y avait comme un joke.
Quand même, il vient peut-être de là, là pour le conditionnement. Ouais. Il y a eu trop d'échanges.
Il y a eu trop d'échanges.
Selon le règlement, c'est maximum 14 jours que tu peux te retrouver cédé au Rocket.
OK. Ben regarde, Max va nous appeler en revenant de la pause. D'accord. Pour jaser de tout ça un petit peu, juste pour prendre nos informations comme il faut. Merci Alex.
Merci à vous autres.
On revient dans quelques instants. C'est Gravel dans le retour. Samuel Montembeau cédé au Rocket pour au moins les prochaines semaines. Gravel.